Radio Bark, notre septième de la saison et la troisième partie, consacrée donc aujourd'hui à l'invitation d'Alain Perea, qui a déjà donné son point de vue sur un certain nombre de sujets. Mais Alain Perea, puisque nous avons parlé, Michel Santo a parlé de Macron, je crois qu'on est en plein dans le sujet parce que c'est quelqu'un qui vous intéresse.
Oui, effectivement, j'ai eu la chance, peut-être une des seules au doigt, à avoir eu la chance de le rencontrer dans le cadre de sa démarche qu'il a initiée il y a maintenant plusieurs mois. Donc j'ai eu la chance de le rencontrer. Il nous a clairement posé les façons dont il allait travailler. Et surtout, et c'est un point que je tiens à préciser, j'ai la chance par mon travail, enfin chance ou je sais pas, mais de rencontrer régulièrement des hommes politiques, des ministres et autres. Et Emmanuel Macron, à part peut-être Georges Frêche, Emmanuel Macron est le seul homme politique qui m'est vraiment scotché à ma chaise. C'est quelqu'un qui dégage à la fois sur le fond et sur la forme une énergie, un projet qui m'intéresse particulièrement. Et donc je suis effectivement à la fois intéressé par sa démarche et heureux, je dois le dire, qu'il ait enfin affiché sa candidature. Mais il y a plusieurs mois, déjà en petit comité, quand je l'avais rencontré, il nous avait annoncé qu'il le ferait, et qu'il le ferait dans la période qui est celle-là actuellement.
Donc vous y avez cru depuis un certain temps déjà ?
Effectivement, non seulement j'ai cru, mais il nous avait expliqué, donc c'était effectivement avant l'été, toute la démarche. Et on se rend compte, on s'est rendu compte, je me suis rendu compte que jour après jour, il déroulait le scénario tel qu'il l'avait prévu, sans jamais faillir à la parole qu'il avait donnée. Et donc, non seulement lors de cette première rencontre, mais aussi toutes les réunions que nous faisons avec à Montpellier, avec le réseau qui le soutient au niveau régional, eh bien, je me suis rendu compte que c'était quelqu'un qui, loin de ce que l'on pourrait croire ou que certains veulent faire croire en pensant que c'est quelqu'un qui sort comme ça du chapeau, il a une vraie stratégie. Il y a énormément de fonds. Et je pense qu'il va quand même faire bouger beaucoup, beaucoup de lignes.
Alors, on va revenir en détail sur tout ça. Je précise pour nos auditeurs que vous, Alain Perea, depuis longtemps, vous êtes plutôt dans la mouvance socialiste, Parti socialiste, dont vous êtes toujours membre.
Alors, je ne suis pas dans la mouvance, je suis membre du Parti socialiste.
Vous êtes membre, voilà, même si parfois vous avez agi de manière indépendante, ce qui vous a valu quelques déboires. Mais enfin, ça, c'est la vie politique, ça arrive. Alors, donc, vous êtes toujours aujourd'hui membre du Parti socialiste.
Oui, mais moi, je tiens à préciser par rapport à ce que vous venez de dire. Je suis membre du Parti socialiste depuis de nombreuses années, et il y a maintenant fort longtemps que je souhaite et que je demande qu'il y ait une vraie évolution, qu'il y ait des évolutions dans le fonctionnement du Parti socialiste. Mon soutien à Didier Codorniou en 2012 allait dans ce sens-là, allait contre le fait qu'il fallait réserver un certain nombre de circonscriptions et tout ça. Je ne vais pas refaire l'histoire, mais ce que je voudrais dire, c'est que les valeurs qui me portent aujourd'hui sont les mêmes que celles qui m'ont porté en 2012 et qui me portent depuis de nombreuses années. Je suis persévérant dans l'effort, je ne change pas, et j'ai demandé à réintégrer le Parti socialiste. J'ai fait appel de la sanction qui avait été faite contre moi, parce que je suis intimement convaincu, et je ne suis pas le seul au sein du Parti socialiste, que les choses peuvent évoluer, que les choses vont évoluer, mais elles vont évoluer de l'intérieur, et donc c'est pour ça que j'ai souhaité rester au Parti socialiste.
Alors Michel.
Alors, allons droit au but, hein, ben oui. Jean-Claude Alain Perea. Est-ce que vous serez candidat ou pas aux législatives avec l'étiquette Macron ?
Je viens de dire qu'il fallait changer la façon de faire de la politique, hein, qu'il fallait changer la façon d'aborder les choses. Pour ceux qui ont écouté le discours de Marseille d'Emmanuel Macron, la réponse que je vais faire ne va pas vous étonner. La question aujourd'hui n'est pas là. La question. Alors bien sûr que je pourrais dire je vais prendre tout le monde de vitesse, hein, et je vais m'afficher, comme ça personne ne me prendra la place. C'est ce que pensent certains. D'autres sont en train de faire des petits calculs politiciens. Il faut que je présente un candidat, je ne vais pas gagner, mais au moins je serai dans l'échiquier local parce que je vais me préparer pour la prochaine fois. Moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est que les valeurs que je défends depuis de très nombreuses années, qui sont profondément ancrées à moi, soient aujourd'hui, au niveau national et au niveau de cette circonscription, porter le plus loin, le plus haut et le plus fort possible. C'est mon esprit aussi sportif qui revient là sur le devant de la scène. Donc aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de dire si Alain Perea il va être candidat ou pas candidat, c'est de dire que Alain Perea il souhaite être dans le match qui va faire que la gauche va évoluer, le Parti socialiste va peut-être évoluer, et en tout cas que cette Narbonnaise qui le mérite va enfin avancer, et avancer à grands pas, parce qu'elle va être en marche.
Alors, politiquement, qu'est-ce qui vous intéresse dans Macron? Qu'est-ce que vous semblez... Enfin, sur quoi vous tablez pour l'avenir? Qu'est-ce qu'il peut apporter? Quel changement il peut... Une petite question toute simple. Si vous aviez été, par exemple, député à ce moment-là, est-ce que vous auriez voté, vous, la loi Macron?
Alors, pour être honnête, je consacre énormément de temps à trois piliers qui sont importants. Ma famille, mon travail... et ma commune et l'agglomération, c'est-à-dire voilà. Donc je vous mentirais si je vous disais que je connais dans le détail la loi Macron. Ce que je regrette, c'est que beaucoup de personnes analysent le personnage Macron au travers d'une loi qui porte son nom, alors que tous ceux qui connaissent le processus d'élaboration des lois savent bien que le texte qui sort est aussi un processus complexe d'élaboration et autres. Et donc moi, je dis vraiment avec force que ceux qui tape sur Macron uniquement au travers du prisme de sa loi, regarde au-dessus, lève le nez un petit peu de ça et regarde bien plus large. Voilà. Donc moi, ce qui m'intéresse, pour revenir sur votre question, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure par rapport au premier contre-regard de Michel Santo, c'est qu'aujourd'hui, il faut changer de logiciel. Surtout, il faut changer de logiciel. Et parce qu'il y a un certain conservatisme, pour tout un tas de raisons, je ne suis pas là pour les dépeindre, je pense qu'elles sont aujourd'hui unanimement connues et décriées. Il faut changer de logiciel. Je pense que le premier qui propose un changement de logiciel, c'est Emmanuel Macron. Et donc moi, je suis très intéressé pour regarder ce logiciel qu'il nous propose. Après, si on reste sur ce schéma, qui est un schéma informatique, on sait très bien que c'est pas forcément les premiers logiciels qui ont existé, hein, sur ceux qui ont connu les premiers ordinateurs, qui sont aujourd'hui toujours d'actualité. Mais en tout cas, c'est le premier à dire « Attendez, là maintenant, il faut tout arrêter, on va changer de logiciel ». Et moi, c'est ce que je défends depuis des années, depuis mon engagement en politique, et je continuerai à le faire. Et c'est la raison pour laquelle, vraiment, pour répondre à votre question, je suis intéressé par cette démarche-là.
Oui, alors Michel, réaction là-dessus.
C'est vrai que, enfin, réaction, il y a incontestablement...
Sur la réponse d'Alain Perrier.
La réponse, elle est... Ben voilà, c'est une réponse, mais il fait de la politique depuis tout petit, il fait Alain Perrier. Il n'a pas répondu de manière nette et précise à ma question. Hein. Il a expliqué qu'il était très intéressé par la démarche Macron. En quelque sorte, il dit, bon, je laisse encore un peu de temps au temps pour laisser les choses se décanter et voir comment cela va se passer. Il y a d'autant plus raison que j'apporte une information à nos auditeurs, c'est que Macron est tellement malin et moderne qu'il a dit en l'espèce que pour les investitures de son mouvement, il laisserait le choix à des députés éventuellement sortants ou d'autres qui ne seraient pas, de conserver leur appartenance à un parti, le PS, ou un parti de droite, tout en effectivement prenant parti pour lui. C'est d'une finesse en fait, et d'une logique imparable, parce qu'on ne voit pas comment aujourd'hui, en fait, et à l'amont de ce genre de décision, les partis peuvent dire « Tiens, un tel, il risque, en cours de législature prochaine, si je l'investis, et si Macron arrive devant, de pouvoir effectivement passer sous l'étiquette Macron ». Donc c'est un garçon qui, de ce point de vue-là, à travers cet exemple, montre bien qu'il sort effectivement des schémas établis et qu'il est capable effectivement de réagir avec souplesse, finesse, en fait, réactivité. Et en ce sens, je comprends qu'un jeune garçon aussi comme Alain Perrier, qui a le souci de vivre la politique à fond, hein, soit intéressé par ce genre de démarche.
Et alors, essayons d'aller un petit peu plus dans le fond. Qu'est-ce que vous voyez, comment le pays pourrait changer avec quelqu'un comme Emmanuel Macron, sur le plan social, sur le plan économique?
Moi, ce qui m'intéresse déjà en premier lieu, c'est qu'il pose clairement, il faut arrêter ce débat gauche-droite. Voilà. Il prend l'exemple qui a déjà sûrement été entendu par certains, il prend l'exemple de la ligne Maginot, qui avait été imaginée par des gens du passé. Et aujourd'hui, on construit notre politique entre d'un côté la gauche, de l'autre côté la droite. Mais ce dont les gens ne se rendent pas compte, ou alors ne veulent pas se rendre compte, c'est que exactement comme pendant la guerre, nous sommes en train de nous faire déborder par l'extrême droite qui va chercher l'électorat dans l'extrême gauche. Donc, nous, on campe sur nos positions, la gauche, la droite, d'un côté, et pendant ce temps, les extrêmes sont en train de nous déborder par le haut, par le bas, peu importe. Et donc, là, moi, c'est un schéma qui m'intéresse énormément, parce que, à force de me dire, ouais, mais il est de gauche, il est de droite, et s'il est mis, enfin, on s'en sort pas. On voit bien qu'à la communauté d'agglomération, on essaye de travailler ensemble. Généralement, à part bien sûr sur quelques dossiers et puis avec une commune ou deux en particulier, c'est compliqué, mais que globalement, pour l'intérêt de ce territoire, on arrive à faire des choses. Et donc moi, vraiment, c'est ce logiciel-là que je souhaiterais remettre en cause, parce qu'on sait les uns et les autres d'où vient cette logique gauche-droite, quoi. Elle date pas quand même d'aujourd'hui.
Oui, alors oui, Michel, précision.
Oui, non, mais c'est vrai que bon, la politique, c'est un vieux métier, quoi. Hein, c'est un vieux métier qui, voilà, bon, et puis c'est vrai qu'on peut se poser la question, hein, je la pose à l'impérial au passage, quoi. Bon, pourquoi les hommes politiques seraient les seuls, hein, dont la trajectoire, les réflexes, les méthodes, les enjeux ne seraient pas rénovés de fond en comble, bon, comme cela se fait dans tous les secteurs aujourd'hui, dans toutes les entreprises, à une vitesse bon exponentielle, quoi. Hein. C'est vrai que la révolution numérique, elle concerne aussi, je prends cet exemple-là, les politiques et la manière effectivement d'agir, en fait, de penser, en fait, d'innover, en fait, etc., et de bousculer les lignes, en fait, sans se poser la question de savoir il est à gauche, il est à droite, en fait, il est au centre. C'est pas ça la question.
Le problème, il est là, et je rebondis sur effectivement cette réflexion de Michel Santo, mais qui est aussi amusante, c'est que quand je dis avec force et sincérité qu'aujourd'hui la question n'est pas là, que dit Michel Santo? Il dit oui, mais Alain, c'est un fin politique qui fait de la politique depuis qu'il est petit. Bon, donc à partir de quand on accepte qu'un homme politique veuille changer de logiciel, sans dire ah, non, mais lui, il est tordu, il ment. Voilà. Moi, je n'ai pas hésité à être exclu 2 ans de ma famille politique, et je peux vous dire que ça m'a humainement coûté cher, mais parce que c'est pas facile d'être sorti de sa famille politique pendant 2 ans, parce que je me suis toujours battu pour mes convictions et mes valeurs, voilà. Et là, quand je vous le dis avec force que la question n'est pas de savoir si à l'Imperia il sera député ou enfin, en tout cas candidat sur la circo, moi, ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, la Narbonnaise, parce que je veux vraiment parler de la Narbonnaise a de tout temps été un carrefour qui a été vraiment précurseur, et on reparlera un jour, Michel, avec plaisir, de l'Occitanie, qui a été un carrefour de l'intelligence, qui a fait rayonner son territoire bien plus large que la Narbonnaise. Et moi, le pari que je fais, et c'est ce pari que j'aimerais vraiment réussir dans les semaines et mois à venir, c'est qu'il va y avoir une formidable intelligence collective qui fera que c'est véritablement notre territoire qui en sortira vainqueur autour d'un candidat, d'un duo ou je ne sais trop quoi, mais qui fera que c'est cette valeur humaniste et progressiste qui va avancer, et non pas d'un côté le PRG, d'un autre côté le PS, d'un autre côté l'Imperia, qui au passage on le soupçonnera de régler ses comptes avec Marie-Hélène Fabre. Moi, je ne suis pas là pour régler mes comptes avec Marie-Hélène Fabre, je suis là pour que ce territoire avance, et vous, je le dis à la radio parce qu'il me voit pas, je fais 118 kilos et je vais y mettre tout mon poids et toute ma force.
Alors, le fait justement de refuser ces étiquettes droite, gauche, ça veut dire un refus aussi des idéologies. D'ailleurs, il paraît que parmi les gens qui soutiennent Macron, il y aurait 3/3, il y aurait 1/3 d'origine de gauche, 1/3 d'origine de droite et 1/3 d'engagement nouveau, si je puis dire. Je ne sais pas si ces statistiques sont exactes. Mais ça veut dire quoi? On refuse les idéologies, c'est-à-dire qu'on est pragmatique et tout se discute sans a priori, en quelque sorte, puisqu'il faudra quand même faire des lois, des règles, des comportements.
Je voudrais revenir sur la démarche. Quand il a lancé sa grande marche, beaucoup de gens m'ont dit « mais la grande marche, c'est du porte-à-porte, il se dit novateur ». Mais il faut voir l'outil puissant que c'était, la grande marche. Nous étions avec des applications sur nos téléphones, et quand on avait des questions précises à poser, on renvoyait immédiatement les résultats à Paris, les résultats étaient analysés, et on nous disait, la semaine prochaine, il faut faire tel secteur, parce qu'en fonction des questions que vous nous avez posées, nous avons besoin d'avoir des réponses sur d'autres points. Donc on est sur une démarche qui est une démarche itérative, une démarche qui est, on avance en tenant compte des choses. Ensuite, et je ne vais pas refaire tous les discours de Macron, il a des règles et des valeurs sur lesquelles il ne reviendra pas. Et quand il parle d'intégration, le discours de Montpellier est intéressant par rapport à ça, parce que moi je l'attendais là-dessus beaucoup sur ces valeurs-là qui me sont chères. Voilà. Et je pense qu'il a été très clair là-dessus. Après, je l'ai dit récemment, il y a un ou deux points sur lesquels j'attends encore des réponses, c'est les questions environnementales. c'est les questions d'aménagement du territoire, c'est les questions de la place de la commune. Je suis un fervent défenseur de l'échelon communal. Je n'ai pas dit que j'étais un fervent défenseur du maire et du conseil municipal. J'ai dit de l'échelon municipal. Ce sont deux choses différentes, mais c'est un autre débat. Voilà, donc par rapport à ça, moi, je questionne son équipe, je questionne les équipes. Voilà. D'un autre côté, et je reviens sur ce qu'a dit Michel tout à l'heure, je suis toujours membre du Parti Socialiste. Je pense qu'aujourd'hui, le Parti Socialiste va vivre un grand chambardement, parce que pendant trop longtemps, il s'est arc-bouté sur un certain conservatisme. Je discute régulièrement avec des hauts responsables qui me confirment cette analyse-là. Et franchement, moi, ce que j'aimerais vraiment, vraiment, de tout mon cœur, c'est que ce grand chambardement qui va amener, après les élections de l'année prochaine, une réorganisation, une redistribution des cartes, eh bien, moi, j'aimerais que dans la Narbonnaise, comme nous l'avons été souvent au fil de l'histoire, nous soyons les précurseurs de ce grand chambardement et que nous soyons capables d'avoir une stratégie qui soit une stratégie novatrice et qui va véritablement préfigurer ce que l'on verra après l'été 2017. Si nous, on réussit ce challenge-là, et moi, je me bats au quotidien pour que l'on réussisse ce challenge-là, ben, je peux vous dire que la Narbonnaise, encore une fois, aura brillé. Et je me bats vraiment pour ça parce que ce serait pour moi une très belle réussite, peu importe après le résultat des élections.
Alors, une dernière question, et on conclura là-dessus, Alain Perea. Justement, sur la Narbonnaise, vous êtes en train, j'imagine, de participer à l'élaboration de structures. Ce que vous avez fait avec Emmanuel Macron à Montpellier, peut-être allez-vous appliquer ce modèle sur la Narbonnaise. Où est-ce que vous en êtes sur la construction des structures ou de la structure?
Alors, là aussi, on est sur un modèle qui est 90 000, 92 000 membres adhérents. Bon, voilà. Pour ceux de nos auditeurs qui sont allés, du moment qu'ils ont rentré leur adresse mail, ils ne le savent peut-être pas, mais ils sont adhérents du mouvement Macron. Voilà. Donc, il faut aussi relativiser tout ça. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, ce mouvement est en train aussi d'exploser littéralement par rapport au schéma que nous avons l'habitude de connaître. La section, les sections de quartier, enfin tout ça. Là, aujourd'hui, tout explose, tous les schémas explosent. Donc on a, ça a été dans la presse, et j'en suis fort, fort content, David Granel qui travaille concrètement sur le terrain par rapport à tout ça. Moi, je travaille à une autre échelle avec d'autres réseaux. Nous nous retrouvons régulièrement par mail, mais nous avons en flux continu une application qui nous envoie toutes les informations. Nous recevons 3 ou 4 mails par jour qui nous donnent des informations en flux tendu. Donc c'est une organisation qui est complètement différente de ce que l'on peut connaître, et donc mais il faut essayer de récupérer tout le monde. Donc on se partage un petit peu le travail avec David, et pour l'instant les choses se passent plutôt bien, mais il n'empêche que moi je reste sur le schéma dont je vous ai parlé tout à l'heure, et je ne désespère pas de le voir appliquer très rapidement.
Voilà, une petite dernière précision, David Granel sera très probablement notre invité en janvier prochain, et bien entendu d'ici là certaines choses auront évolué et il aura aussi des choses à nous dire.
Le Père Noël sera passé.
Le Père Noël sera passé. Alors,
et ce ne sera pas une ordure.
Alors je ne sais pas comment il faut interpréter ces paroles-là, je laisse le choix aux auditeurs de les interpréter. C'est à double ou à triple ou à quadruple sens. Merci Alain Perea. Le prochain invité sera. On parlera de rugby. Ce sera Christian Labitte, l'entraîneur et manager du RCNM. Nous reviendrons sur la renaissance peut-être ou la reconstruction actuelle du Racing Club Narbonne Méditerranée. Merci à vous et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Merci.